Merci d'écouter Radio France Internationale, 9h à Port-au-Prince. Il est 13h en temps universel.
RFI Midi. Anne Cantner.
Haïti à la une de cette dernière demi-heure de RFI Midi. Haïti avec une avancée dans la transition politique, la mise en place d'un conseil électoral. Provisoire, il était très attendu, mais il n'a pas encore la dimension prévue. Nous le verrons avec notre confrère Franz Duval. On parlera de la campagne électorale aux États-Unis et des camionneurs américains. Le principal syndicat refuse de soutenir l'un ou l'autre candidat. Et c'est plutôt mauvais signe pour Kamala Harris. Enfin, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, la nuit a encore été mouvementée dans certains quartiers de Fort-de-France, malgré le couvre-feu décrété hier.
Et oui, dans certaines rues du chef-lieu de la Martinique, c'était ce matin le spectacle classique des lendemains d'émeutes urbaines. Nous entendrons tout à l'heure le reportage en direct de notre confrère de la première Martinique, Xavier Chevalier.
À tout à l'heure. Et pour l'heure, le journal de Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Les événements au Liban seraient le prélude d'une guerre régionale plus large.
Oui, c'est la crainte exprimée entre autres par le chef de la diplomatie libanaise, Abdallah Abou Habib. Le Hezbollah a confirmé ce matin la mort de 20 de ses membres dans les explosions de Tokiwoki d'hier attribuées à Israël. On estime le total de blessés à 450 dans cette nouvelle vague d'attaques qui a suivi celle de mardi, lancée elle au moyen de beepers piégés. Au-delà des clivages politiques, ces attaques ont provoqué au Liban de la sidération et beaucoup d'indignation. Reportage à Beyrouth de Laure Stéphan.
Devant l'hôpital universitaire Mont-Liban, en lisière de Beyrouth, des familles attendent des nouvelles de leurs proches blessés dans l'attaque de mardi. Des femmes ont les yeux rougis. Une soixantaine de patients, pour la plupart membres du Hezbollah, sont hospitalisés. Docteur Eli Rarios, directeur médical.
Beaucoup d'atteintes sont au niveau des yeux. Et un œil, quand il est vraiment blessé, quand il est traumatisé, il est difficilement récupérable. C'est ignoble, c'est ce qui se passe. Et inacceptable. Avec la spirale de violence à laquelle on assiste, on se demande bien quelle est la prochaine étape. C'est inacceptable.
Les attaques des deux derniers jours ont provoqué un afflux massif de blessés vers les hôpitaux. Des Libanais répondent présents pour donner leur sang, dit Mahawad.
Nous devons être les uns à côté des autres. Laisser la politique de côté. Considérer l'humain. Laisser de côté nos différends. Si nous ne sommes pas solidaires entre nous, de qui attendre cette solidarité? Je ne suis pas médecin, je suis juste une personne. Le minimum que je puisse faire est de donner mon sang. Quand j'ai appris les attaques, j'ai été stupéfaite. C'est une guerre électronique et dangereuse.
Les attaques ravivent le sentiment de vulnérabilité parmi les Libanais, diffus depuis le début de la guerre à Gaza et des affrontements à la frontière libano-israélienne liée à ce conflit. Laure Stéphan, Beyrouth, RFI.
Le Hezbollah, le mouvement islamiste libanais, se retrouve sinon déstabilisé, du moins très ébranlé par ces attaques technologiques d'un genre nouveau. À cette échelle, elles sont totalement inédites. La situation au Liban sera débattue en urgence demain au Conseil de sécurité à New York.
L'Iran est accusé d'interférer dans la campagne électorale américaine.
Oui, des agences américaines de renseignement affirmaient le mois dernier que l'Iran avait piraté l'équipe de campagne de Donald Trump. Les autorités américaines dénoncent les efforts continus de l'Iran pour perturber les institutions du pays, ce que dément Téhéran formellement. Abla Junaidi.
D'après trois agences du renseignement intérieur américain, dont le FBI, des pirates iraniens ont envoyé des extraits de documents volés à l'entourage de Donald Trump, à l'équipe de Joe Biden, lorsque le président démocrate était encore dans la course. Des emails non sollicités, dont aucun n'a obtenu de réponse de l'équipe de campagne du candidat démocrate à l'époque, précisent les agences. En août dernier, la presse américaine s'était faite l'écho d'un dossier piraté de 271 pages émanant du Parti républicain et qui détaillait par exemple le CV du listier de Donald Trump, J.D. Vance. Les trois agences pointent du doigt la responsabilité de l'Iran et ses efforts constants pour envoyer à des médias américains des documents volés à la campagne de l'ancien président Trump. Dans une campagne toujours plus féroce, l'équipe du candidat républicain ne se gêne pas pour y voir la preuve que les Iraniens interfèrent pour aider Kamala Harris et Joe Biden. Donald Trump étant perçu comme plus dur avec le régime iranien. Des accusations inadmissibles, a réagi la mission de l'Iran auprès des Nations Unies, qui précise qu'elle n'interfère pas, je cite, dans le vacarme interne aux États-Unis.
Abla Jouneidi en France. Deux semaines après sa nomination à Matignon, Michel Barnier mène aujourd'hui ses ultimes consultations en vue de former son gouvernement. Après avoir rencontré ce matin les présidents des assemblées, il réunit à l'heure qu'il est les formations politiques consultées en vue de la formation rapide d'un gouvernement. C'est ce que précisent les services du Premier ministre. De nouvelles violences ont éclaté en Martinique, île des Antilles françaises, peuplée d'environ 350 000 habitants. En conséquence, le préfet a signé un arrêté de couvre-feu dans certains quartiers de Fort-de-France. Depuis plusieurs nuits, des violences urbaines secouent la Martinique, dont la population proteste contre la vie chère. Autre territoire français, la Nouvelle-Calédonie, territoire français du Pacifique. Elle n'en a pas fini avec les violences. Deux personnes sont mortes lors d'une opération de gendarmerie, portant à 13 le total depuis début mai. Les faits se sont déroulés au sud de Nouméa, à Saint-Louis, où la mobilisation contre la réforme du corps électoral a dégénéré en émeute. Depuis, cette réforme a été suspendue par Emmanuel Macron.
Des tensions entre les États-Unis et la Chine à propos de Taïwan.
La Chine a décrété des sanctions contre des entreprises américaines de défense pour avoir vendu des équipements militaires à Taïwan. Ces mesures interviennent alors que la Chine continue d'accroître la pression sur l'île nationaliste en exigeant que Washington cesse de soutenir ses déclarations d'indépendance. Les précisions à Pékin de Claire Broderst.
La Chine a sanctionné 9 entreprises de défense américaines, dont des acteurs majeurs comme Northrop Grumman et Lockheed Martin, pour leur implication dans des ventes d'armes à Taïwan. Ces sanctions impliquent le gel des actifs de ces entreprises en Chine, ce qui leur interdit de faire des affaires dans le pays. Lundi, le département d'État américain a approuvé la vente éventuelle à l'armée taïwanaise de pièces détachées d'une valeur d'environ 228 millions de dollars. Pékin considère ce type d'accord comme une atteinte à sa souveraineté et une violation de la politique de la Chine unique. Les ventes d'armes comprennent des systèmes avancés de défense antimissile qui, selon la Chine, menacent la stabilité et la paix régionale. En sanctionnant les entreprises impliquées dans ces transactions, Pékin envoie un message selon lequel de tels accords auront des conséquences diplomatiques et économiques. Les ventes d'armes à Taipei reste un point de tension important dans les relations entre Pékin et Washington. L'empire du milieu n'en démord pas. Le statut de l'île est la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Cléa Broderst, Pékin, RFI.
Au Mali, le bilan des attaques djihadistes de mardi est très lourd. Ces attaques lancées contre une école de gendarmerie et l'aéroport militaire de Bamako ont fait, de sources sécuritaires, plus de 70 morts et 200 blessés.
L'Équateur est confronté à une vague de sécheresse.
Avec parmi les conséquences, la baisse de la production hydroélectrique à cause du manque d'eau. Le gouvernement équatorien a donc décidé d'imposer à la population des coupures de courant. Manuel Terralios, de la rédaction Amérique latine de RFI, a recueilli les explications de Fernando Salinas, ingénieur spécialiste en énergie.
Nous traversons une crise énergétique et ces mesures visent à rationner l'énergie de manière urgente. Le réservoir de Mazar, la principale retenue d'eau des usines hydroélectriques du pays, devrait atteindre son niveau minimum dans quelques jours. Donc les mesures visent à maintenir le niveau de l'eau pour éviter d'aggraver la situation sur nos usines hydroélectriques. La cause principale de cette situation est également structurelle. L'offre d'électricité ne répond pas à la hausse de la demande d'énergie. Les mesures du gouvernement arrivent un peu tard. Il aurait fallu rationner l'électricité une ou deux heures par jour dans les semaines passées, mais mieux vaut tard que jamais. Par contre, il est très possible que les coupures d'électricité s'étendent au-delà des heures prévues.
Enfin, les marchés mondiaux évoluent dans le vert aujourd'hui au lendemain de la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser son taux directeur d'un demi-point. C'est le début d'un assouplissement monétaire attendu depuis des mois par ces marchés. La Bourse de Paris affiche actuellement une forte hausse de plus de 2%, plus 1,7% à Francfort. Voilà, très bonne journée sur RFI, tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Pour la suite et la fin d'RFI Midi, nous sommes sur le continent américain pendant les 20 prochaines minutes et d'abord en Haïti.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous sommes en direct, comme chaque mardi, avec notre confrère Franz Duval, rédacteur en chef du quotidien Le Nouvelliste. Bonjour Franz.
Bonjour Anne.
On va parler d'abord de cette promesse faite par les nouvelles autorités de transition, la mise en place d'un organe qui est très important, un conseil électoral provisoire. Il était très attendu, ça y est, il a été mis en place, mais pour l'instant, il s'agit d'un conseil allégé, comme le dit votre journal.
Tout à fait. Le conseil devait présenter 9 membres. Il a été institué avec 7 parce qu'il y a deux organismes de la société civile, deux secteurs de la société civile qui n'arrivent pas à s'entendre sur le nom de leurs représentants au sein du Conseil électoral provisoire. Il faut dire que c'est un conseil consensuel. Ce sont les organismes de la société civile qui délèguent des représentants et pour les deux secteurs manquants, on n'a pas pu arriver à un accord sur le nom de ce représentant qui doit intégrer le Conseil électoral provisoire, qui est chargé d'organiser les futures élections, élections qui doivent arriver avec la passation de pouvoir à de nouveaux élus en février 2026 pour compléter la transition.
Et pendant que les outils de la transition se mettent difficilement en place, la situation sécuritaire se dégrade au port de la capitale au point de décourager les bateaux, Franz.
C'est un coup dur pour toute l'économie haïtienne parce qu'Haïti, c'est un pays qui importe beaucoup de ce qu'il consomme. Et la principale porte d'entrée vers le pays, c'est le port de Port-au-Prince, c'est la baie de Port-au-Prince en général, où il y a plusieurs ports. Et cette baie de Port-au-Prince, depuis quelques jours, fait face à l'insécurité. Il faut dire que les bandits sont de moins en moins présents dans les routes de Port-au-Prince, mais de plus en plus présents sur les flots. Et ils attaquent les bateaux qui rentrent dans la baie à partir de navettes. Ils attaquent, ils ont même kidnappé deux marins sur un bateau qui est entré au port de Port-au-Prince. Ensuite, ils ont tiré sur des bateaux qui rentraient aussi. Et même le port, le service, les bureaux du port ont été attaqués à l'arme automatique. Le gouvernement essaie de faire de son mieux, essaie d'affréter des navires, de les armer pour faire des patrouilles dans la baie de Port-au-Prince. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Et il y a des lignes maritimes qui ont décidé de ne pas fréquenter le port de Port-au-Prince, où déjà les bateaux de marchandises étaient rares. Et là, ça risque de s'amoindrir encore plus.
Et puis Franz, le Nouvelliste nous parle aujourd'hui des efforts du gouvernement pour rouvrir les écoles. Il s'est même fixé une deadline pour que les milliers de déplacés qui occupent les lieux aient trouvé refuge ailleurs.
Tout à fait, c'est une crise qui dure depuis le mois de février. Beaucoup d'institutions scolaires, privées, publiques, des centres universitaires ont été envahis par des sinistrés, par des gens qui avaient dû abandonner leur maison à cause de l'insécurité, qui étaient venus prendre refuge dans ces écoles, dans ces universités, et le gouvernement essaie de leur donner un pécule pour qu'ils évacuent ces institutions de formation pour que l'école puisse reprendre ses droits dans ces locaux où les élèves ont été chassés aussi parce que les élèves ne peuvent plus fréquenter ces locaux depuis février. C'est un effort titanesque que le gouvernement est en train de faire tout ça à l'amiable avec des réfugiés qui n'ont pas vraiment de nouveaux endroits où aller. Mais c'est un bras de fer. On espère que tout se passera bien pour les uns et les autres.
Avec une certaine inquiétude de la part des personnes déplacées, on peut le lire dans votre reportage sur le site du Nouvelliste, lenouvelliste.com. Merci Franz Duval, rédacteur en chef de ce quotidien. On vous retrouve la semaine prochaine. Et nous, on va rester en Haïti pour continuer à lire la presse, d'autres journaux du pays, Achim Lippold, et cette information des journalistes qui offrent des cadeaux à un chef de gang.
Et oui, et c'est à lire ce matin dans Ayobo Post, deux journalistes de l'agence de presse Reuters, Adrice Latif et Sarah Kinosian, se trouvent sous les feux des critiques, écrit Ayobo Post, après la publication d'une vidéo montrant des cadeaux que les deux reporters ont offert à Jimmy Cherizier, alias Barbecue. C'est l'un des plus puissants chefs de gang haïtiens. Jimmy Cherizier lui-même a publié la vidéo le week-end dernier. Parmi les cadeaux, il y a des cagoules, des bouteilles d'alcool et plusieurs paquets de cigarettes. Et d'après les différentes sources contactées par Ayobo Post, ces cadeaux ont été effectivement rapportés par les deux journalistes qui ont précisément quitté Haïti ce week-end après la publication de la vidéo, craignant pour leur sécurité selon le site d'information. Contacté par Ayobo Post, l'agence Reuters a expliqué que tous leurs journalistes étaient soumis à un code de conduite strict et qu'il s'agissait là d'une erreur de jugement et qu'une enquête était en cours. Ayobo Post rappelle que Jimmy Cherizier fait l'objet de sanctions internationales, notamment de la part des Nations Unies qui l'accusent de violer les droits humains et de contribuer à la déstabilisation du pays.
Achim Lippold, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour feuilleter la presse du continent américain. RFI, The World's Voices. La campagne électorale se poursuit aux États-Unis. Donald Trump était hier à New York, alors que la candidate démocrate, elle, recevait des organisations pro-hispaniques. Tentative de Kamala Harris de capter le vote des latinos dont elle aura besoin pour gagner le 5 novembre. Pour l'instant, même si les derniers sondages lui donnent une légère avance, l'élection s'annonce très serrée et la candidate démocrate ne pourra pas compter sur les camionneurs, les Teamsters. Et ça n'est pas rien, Guillaume Nodin.
Les camionneurs américains ne rejoindront pas la cohorte de la majorité des organisations syndicales qui soutiennent Kamala Harris. Leur président l'a annoncé ce mercredi, au terme de plusieurs jours de consultations, notamment avec la candidate démocrate. Malheureusement, aucun des deux principaux candidats n'a été en mesure de prendre des engagements sérieux vis-à-vis de notre syndicat afin de garantir que les intérêts des travailleurs passent toujours avant ceux des grandes entreprises, dit Sean O'Brien. C'est pourtant l'une des bases du discours de Kamala Harris, mais ce refus de choisir est peut-être surtout le reflet de divisions au sein même du syndicat. Des sondages internes montrent apparemment qu'une majorité des adhérents sont sensibles au discours de Donald Trump. Le patron du syndicat s'était même exprimé lors de la convention républicaine. Cependant, des sections entières soutiennent fortement la candidate démocrate. Le Parti démocrate obtient de manière continue le soutien des Teamsters depuis 1996. Cette fois, pas de consigne de vote pour les 1 300 000 adhérents de ce syndicat très puissant et organisé. Cela pourrait peser dans la balance dans les états clés du Midwest industriel où ils sont particulièrement nombreux. Guillaume Nolin, Washington, RFI.
Et ce refus du syndicat des Teamsters de s'engager pour la candidate démocrate Kamala Harris, cela va plus loin pour Donna Kesselman. Pour elle, c'est le reflet d'une crise profonde, d'une rupture presque entre le Parti démocrate et le monde syndical. Donna Kesselman est professeure à l'Université Paris-Est Créteil, spécialiste du syndicalisme américain. Écoutez.
C'est que nous sommes actuellement dans le contexte de l'ébranlement de l'alliance historique entre le syndicalisme américain et le Parti démocrate qui date depuis Roosevelt et le New Deal. Il ne faut pas oublier le tournant des élections de 2016. Le candidat Trump s'était positionné comme le défenseur du travailleur avec son discours protectionniste en disant qu'il allait défendre l'industrie américaine. Et un quart des électeurs syndiqués qui avaient voté Obama en 2012 qui ont modifié leur vote dans les états clés et qui ont décidé l'élection de 2016. Si on regarde les positions de Biden et des démocrates, ils sont en train de payer leur position, notamment par rapport à la grève des chemins de fer de 2022. Les démocrates et Biden ont mobilisé des institutions très obscures du Congrès pour empêcher cette grève et les Teamsters sont très présents chez les travailleurs de chemins de fer. Les camionneurs ont très, très peur des camions au rabais non réglementés qui viendraient du Mexique pour prendre l'emploi. Et ne pas oublier que le président Trump a renégocié l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord pour le renforcer et fermer encore plus les frontières en faveur des travailleurs. Donc là, on touche directement aux conditions de travail et les conditions de vie. Donc effectivement, la question ouvrière est au centre et les États clés sont avant tout des États ouvriers. Donc c'est cette vote très difficile à lire, très complexe et très contradictoire à beaucoup d'égards qui risque d'être un élément décisif dans les élections.
Donna Kesselman de l'Université Paris-Est Créteil, propos recueillis par Joris Zilberman. Dans cette campagne électorale, marquée hier par un discours très virulent de Donald Trump contre les immigrés qu'il a comparé lors d'un meeting à des animaux, un événement célèbre, au contraire, les nouveaux venus aux États-Unis. Ça se passe en Floride, Achim Lippold.
Oui, exactement, en Floride, où réside Donald Trump. Et c'est à la une du Miami Herald. Le comté de Miami-Dade a organisé un événement culturel pour souhaiter la bienvenue aux migrants venus des Caraïbes et d'Amérique latine qui ont récemment rejoint les États-Unis. Dans le climat politique actuel, avec, vous l'avez dit, le discours anti-immigration véhiculé notamment par le candidat républicain à la présidence, eh bien, cette journée d'accueil avait un caractère hautement symbolique, écrit le journal. L'objectif était de mettre les migrants du sud de la Floride en contact avec des prestataires de services juridiques, des groupes de défense de migrants et d'autres services du comté. Les autorités de Miami-Dade ont souligné que les nouveaux arrivés contribuaient beaucoup à la vie du comté, dont la moitié est née à l'étranger, selon le Miami Herald.
Des migrants qui ont aussi changé la vie à Springfield, dans l'Ohio. Cette ville est toujours sous les projecteurs dans tout le pays, après des rumeurs totalement infondées, on le rappelle, véhiculées par Donald Trump et son colissier J.D. Vance, selon lesquelles les Haïtiens voleraient et mangeraient des animaux domestiques.
Oui, le quotidien de cette ville de 60 000 habitants se trouve effectivement toujours bouleversé par l'impact de ces rumeurs, écrit le journal Columbus Dispatch. Des patrouilles de la police, des fermetures des écoles et d'églises suite à des alertes à la bombe, les habitants et les autorités locales aimeraient tourner la page de cet épisode et revenir à la normalité. Cette normalité, Anne, c'est aussi beaucoup de défis à relever en raison d'une immigration qui s'est intensifiée ces dernières années. D'après le journal, la venue d'Haïtiens a augmenté la population de Springfield de 25%. La ville connaît aujourd'hui une crise de logement et le système de santé est au bord de l'explosion. Le maire a mis en garde contre une instrumentalisation de cette situation à des fins électorales. Mais visiblement, ces mots n'ont pas eu d'impact car Donald Trump a annoncé hier qu'il allait se rendre justement à Springfield dans les deux semaines prochaines.
Et pour terminer votre revue de presse, Harim, on va parler du Brésil et d'un sujet totalement absent de l'actuelle campagne municipale. On parle de jeunes filles mortes de complications à cause de leur grossesse.
Oui, les chiffres sont alarmants. Chaque semaine, en moyenne, une jeune brésilienne âgée entre 10 et 19 ans meurt de complications liées à la grossesse. Celle qui avait moins de 14 ans aurait dû avoir accès à un avortement légal, étant donné le risque qu'une grossesse présente pour la jeune fille enceinte, précise le site d'information Intercept, qui publie un reportage sur le sujet. Le problème, c'est que les municipalités brésiliennes, notamment dans les régions les plus pauvres du pays, manque de structures médicales pour réaliser justement ces avortements. Selon le calcul d'Intercept, presque la moitié des femmes qui avaient droit à un avortement légal selon la loi brésilienne n'ont pas été prises en charge. Le journal en ligne constate que ce problème n'est pas du tout abordé par les candidats aux élections municipales. Le débat autour de l'avortement légal est dominé par des considérations morales, écrit le journal, utilisées notamment par l'extrême droite pour contrôler le corps des femmes.
Achim Lipold, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Nous vous emmenons maintenant au milieu du Pacifique, sur la célèbre île de Pâques. Une petite île, 8000 habitants seulement, mais des dizaines de milliers de touristes qui défilent chaque année. Tous venus voir ces statues, que vous avez probablement déjà vues en photo, les Moai, grands blocs de pierre sculptés en visage qui datent de plusieurs centaines d'années. Ces statues et le tourisme qu'elles engendrent font vivre tout le territoire, mais elles s'abîment à cause du réchauffement climatique. Et notre envoyée spéciale, Naïla de Rouané, est allée voir comment les autorités tentent de mieux prendre soin de ce patrimoine.
Il y a plus de 800 Moai répartis partout sur l'île. À Hangapiko, à côté du petit port de pêche, il y en a un, le nez aplati et le torse légèrement abîmé, qui tourne le dos à l'océan. Ariki, président de la communauté indigène Mauhenua, se tient devant le grand monolithe.
En soi, un Moai, c'est une simple pierre. Mais les Moai, avec tout leur sens et leur histoire, ce sont les visages vivants de nos ancêtres.
Des statues érigées pour certaines il y a plus de 1000 ans et installées sur des ahu, de longues plateformes en pierre, sortes de mausolées.
Spirituellement, on respecte tous les ahu car ce sont littéralement le cimetière de nos ancêtres. Dans chaque ahu, sous chaque moai, se trouvent les restes de nos ancêtres.
Mais les moai, exposés au vent et à la pluie qui balayent l'île, sont rongés par l'érosion jusqu'à plusieurs centimètres car la roche volcanique dont ils sont faits est fragile.
C'est notre responsabilité de les préserver.
Natalia est guide et native de l'île.
Ce n'est pas seulement pour le tourisme, on doit être responsable et prendre soin de cet héritage.
Certains Moai sont alors passés par un processus de conservation comme ceux de Tongariki. Ils sont 15 dressés les uns à côté des autres.
On leur a appliqué un traitement d'étanchéité, mais malheureusement, la grande majorité des Moai aujourd'hui n'est pas traitée.
Car le processus est lent, complexe, mais surtout cher, concède le maire de l'île, Petero Edmunds.
Conserver un Moai, c'est entre 1 à 2 millions d'euros. Il faut payer la main-d'œuvre, les produits qui sont très coûteux. Il y a au moins 848 Moai. Je vous laisse faire le calcul.
Et pour ne rien arranger, le dérèglement climatique accélère également l'érosion des Moai, des sols et du reste des vestiges de l'île. Lily Gonzalez, de l'unité technique archéologique de la Corporation nationale des forêts.
Au fil des années, la quantité de pluie a beaucoup diminué. Mais d'un coup, il va pleuvoir intensément et le jour d'après, c'est grand soleil. Ces alternances d'humidité et de chaleur provoquent l'érosion de la côte qui s'effrite, tombe dans la mer et emporte les sites archéologiques qui s'y trouvent.
Alors, pour solidifier les sols et minimiser l'érosion, un programme de plantation d'arbres a été lancé. Plus de 80 000 ont déjà été plantés, comme ici à Poiké, sur la pointe sud-est de l'île.
Les arbres et leurs feuilles qui tombent régénèrent les sols. Ça permet aussi que l'eau s'infiltre dans la terre et ne ruisselle plus jusqu'à la mer.
Mais les effets du changement climatique ne s'arrêtent pas là, poursuit Lily Gonzalez.
Le changement climatique, c'est un cercle vicieux, car il y a moins de pluie, mais plus de tempêtes soudaines avec beaucoup de vent. Donc, si un incendie se déclare, avec les forts vents, cela va se transformer en un grand feu très vorace.
En 2022, un incendie a touché la carrière de Rano Raraku, où se trouvent plus de 300 Moai. Une vingtaine ont été brûlés.
Les changements brusques de température, c'est ce qu'il y a de plus nocif pour les Moai, car ça fracture la pierre de l'intérieur et on ne le voit pas.
Des Moai fragilisés, mais qui reçoivent toujours la visite de plus de 70 000 touristes par an. Un afflux qui inquiète Ariki de la communauté indigène Mauhenua.
Un touriste sans guide et qui ne connaît pas les règles peut facilement se retrouver sur un vestige sans même le savoir. Au-delà de la possible dégradation, il s'agit surtout de sites sacrés.
Il est alors désormais obligatoire d'avoir un guide pour accéder à certains sites. Seul moyen, selon les habitants, pour préserver les Moai qui, à eux seuls, soutiennent toute l'économie de l'île, qui repose à plus de 90% sur le tourisme. Naïla Drouané à l'île de Pâques, RFI.
Merci d'écouter RFI, 13h26 en temps universel.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand que l'on retrouve. Benoît, malgré le couvre-feu effectif depuis hier soir sur une partie de l'agglomération de Fort-de-France, la nuit a encore été mouvementée dans certains quartiers du chef-lieu de la Martinique.
Et ce matin, le spectacle dans les rues concernées était, si l'on ose dire, classique. Les émeutiers, pour la plupart des jeunes, certains mineurs, s'en sont donnés à cœur joie dans le petit jeu du chat et de la souris avec les forces de l'ordre, en n'oubliant pas de casser et d'incendier tout ce qui leur passait sous la main. Écoutez la correspondance de Xavier Chevalier en direct ce matin sur les ondes de la Première Martinique.
Je me trouve actuellement sur l'avenue Maurice Bishop au niveau des stations-service. À Sainte-Thérèse, l'odeur de brûlé se fait ressentir bien avant d'apercevoir la rue, dès le boulevard Général de Gaulle. Les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, armés notamment de lanceurs de gaz lacrymogènes, installés devant les stations-service proches du McDonald's qui a été incendié hier, sont partis. Elles nous confiaient que la nuit n'a pas été calme, que de nombreux affrontements ont eu lieu avec les émeutiers. Des renforts sont arrivés hier. Les pompiers sont en train d'éteindre les derniers barrages encore enflammés. Tout au long de l'avenue, il y a les restes calcinés des barrages. Impossible de détailler ce qui a servi de combustible, tant il ne reste que des cendres. Plusieurs voitures ont de nouveau été incendiées. De nombreuses poubelles ont été renversées sur la route. Des feuilles de tôle également. De nombreux tas de bouteilles en verre, le plus souvent d'alcool, sont visibles. Le rond-point qui permet de rejoindre le canal Alaric semble une nouvelle fois avoir été le point chaud de cette nuit. Et puis nous sommes aussi rendus au rond-point, au giratoire de Brasserie Lorraine. Là, les barrages sont encore fumants. Quelques petites flammes continuent même de dévorer les cocotiers qui barrent la route. Heureusement, ils sont encore verts et ne parviennent pas à totalement s'enflammer. La circulation, elle est possible. Il y a une longue file de voitures qui arrive du Robert. Impossible, en revanche, de rejoindre Morne-Pitot. Et puis la circulation sur la rocade, sur l'autoroute, va encore s'aggraver puisque vers 6h30, une soixantaine de taxis se sont élancés du rond-point de Carrère pour une opération Molokoï. Le cortège va rejoindre la préfecture sur une voie. Les chauffeurs, tous vêtus de rouge, apportent ainsi leur soutien au RPAC et revendiquent contre la vie chère.
Opération Molokoï, vous aurez traduit opération escargot. Nous le disions, certains quartiers de Fort-de-France ont été placés hier par le préfet sous couvre-feu, à l'exception de Sainte-Thérèse, pourtant l'épicentre des troubles qui agitent le chef-lieu. Un paradoxe totalement assumé par Jean-Christophe Bouvier, le préfet. Il est au micro de Pierre-Yves Honoré.
Le quartier de Sainte-Thérèse a été exclu d'abord parce que nous avons considéré en discutant que ce qu'il était important de faire, c'était effectivement de protéger les biens, naturellement, les personnes aussi. Mais je ne voulais pas laisser apparaître que nous sanctionnions une deuxième fois les habitants de Sainte-Thérèse, dans la mesure où déjà ils ont été particulièrement concernés par les violences urbaines, et que ceux qui parmi eux vont au travail tôt le matin ou rentrent tard du travail ou parfois même travaillent la nuit doivent pouvoir le faire en liberté et ne pas le faire sous le contrôle de la police. Par contre, chaque fois qu'ils devront franchir les axes couverts par le couvre-feu, ils devront souvent démontrer qu'ils se rendent à leur travail, ce qui n'est pas une démarche très difficile à faire.
Un bon après-midi Anne, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à tous d'avoir été avec nous. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui et tout de suite vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix.
MIRA, la foire d'art contemporain latino-américain, se tient du 18 au 22 septembre à la Maison de l'Amérique latine à Paris. MIRA, une plateforme de découverte et une vitrine de talents pour explorer la diversité, la richesse et l'innovation artistique d'Amérique du Sud. Du 18 au 22 septembre. Plus d'informations sur mira-artfair.com. En partenariat avec RFI.